Dominique Chivot, on peut dire que vous êtes un spécialiste des affaires de l'Église, des affaires du Vatican. Pourquoi cette fascination pour le Vatican ? Ça fait combien de temps que vous travaillez autour de toutes ces questions ?
Cela fera bientôt 20 ans, mais je dois dire qu'elle n'est pas naturelle. Comme souvent des fascinations, elles sont aidées par d'autres. Les autres, ce sont les responsables de la Croix, quand ils m'avaient demandé de venir à Rome pour m'occuper de l'actualité religieuse à Rome. Et lorsque je suis arrivé comme correspondant permanent pour la Croix dans les années 90, il me semble que c'était un peu un défi pour moi, parce que je connaissais en gros les affaires de l'Église, mais je dis bien en gros, pas en détail. Et par ailleurs, le Vatican est un lieu, on le sait bien, assez original, assez spécifique. Et le fait de venir à Rome, c'était pour moi découvrir un lieu et un domaine très spécifique. Et là, il y avait sûrement beaucoup de travail à faire. Et depuis, je ne me suis jamais ennuyé à essayer de garder cette spécificité, parce que le Vatican, ce n'est pas qu'un musée, c'est bien un lieu où il se passe des choses tous les ans.
On sent qu'il y a quelque chose qui vous a attrapé et vous y êtes resté.
Sur les questions religieuses, il y a peut-être encore une fois un défi qui est toujours à relever, d'avoir une approche avec les nuances, avec les précisions, avec aussi le recul nécessaire, parce que les choses qui se passent ici à Rome nécessitent un éclairage, je dirais à la fois spatial et temporel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le Vatican si on reste enfermé dans le Vatican, et le Vatican n'est qu'un point de rencontre à mon avis. Et deuxièmement, on ne peut pas comprendre le Vatican si on ne connaît pas un peu l'histoire de ce qui s'est passé depuis plusieurs siècles. Ça, pour moi, c'est excitant en tant que journaliste. Et puis alors, si vous me titiller un peu, je dirais qu'au fond de moi-même, peut-être que par rapport à mes convictions personnelles, il y a aussi un souci de comprendre un lieu qui est souvent décrié, souvent méconnu, où on ne comprend peut-être pas suffisamment bien le rapport entre la foi des chrétiens telle qu'elle est vécue dans les communautés de base et ce qui se passe dans cette institution qui paraît parfois très lointaine et très poussiéreuse, comme on peut l'apercevoir vue de loin.
Et puis c'est peut-être aussi l'occasion pour vous, étant quand même un chercheur, de pouvoir promouvoir des débats publics au sein de l'Église.
Oui, il me semble que le Vatican est source de débats intéressants. Vous en avez de multiples. Alors cela part de l'anecdotique. Vous connaissez comme moi la question, mais pourquoi, alors que l'Église est pauvre en Amérique ou en Afrique, pourquoi y a-t-il autant de richesses au Vatican ? C'est vrai que ça me démange toujours de répondre tout de suite. Vous voulez que pour résoudre le problème des RMistes en France, on vende le château de Versailles ? On a de quoi en effet répondre à des questions qui sont justifiées par la méconnaissance du statut du Vatican quant à ses musées. Et puis ça va jusqu'à d'autres débats beaucoup plus profonds, notamment liés au centralisme. Est-ce que c'est le pape qui est le grand chef qui dit tout et auquel il faut obéir les doigts sur la couture du pantalon ? Ça, ce sont des questions qui reviennent rituellement dans des pays comme la France. On a toujours eu un souci d'indépendance. Et il me semble que là, c'est intéressant d'apporter les nuances. Et quand on connaît un peu mieux le Vatican, on peut apporter ces nuances, non pas pour se faire le défenseur de quelques causes, de quelques pontificats, mais pour plutôt dire, ben voilà, il y a peut-être des éléments qu'il faut ajouter à l'analyse. Il faudrait quand même dire que le Vatican, ce sont les choses concrètes. Le Saint-Siège, c'est ce qui correspond à l'Église catholique dans son ensemble, dans son universalité. Les musées n'appartiennent pas à Benoît XVI. Les musées appartiennent à l'ensemble, non seulement des croyants, mais aussi de l'humanité, puisque ces richesses, entre guillemets, ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Vous sortez un livre qui s'appelle Vatican. Pourquoi avez-vous écrit ce livre ?
Je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée. Il s'agit d'une conjonction entre un projet éditorial, donc de la maison Assouline, et ce que j'avais moi dans mes petits cartons, et le fait qu'on se soit retrouvés pour penser à ce projet, en ayant comme idée, non pas de faire un bouquin de plus sur le Vatican, mais plutôt d'imaginer qu'entre les nombreux ouvrages d'histoire qui existent sur le Vatican et les nombreux guides, livres d'art, livres relatant le contenu des musées, il y avait de l'espace pour faire quelque chose, non pas de mieux naturellement, mais quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus consiste à avoir une perception un petit peu globale du Vatican pour justement éviter les impasses. Pour moi, une impasse consisterait à ne voir le Vatican que sous son aspect de musée, et donc de ne faire qu'un beau livre, un beau guide. Une impasse consisterait à ne voir le Vatican comme une histoire, même riche, mais une histoire, c'est-à-dire qui aujourd'hui n'existe pas dans son quotidien. Et c'est pour ça que le fait d'imaginer un Vatican sous toutes ses dimensions me paraît intéressant, puisque là, on a à la fois un peu d'histoire, bien entendu, puisque je parcours ces 2000 ans, mais on a aussi beaucoup de culture, puisque je m'attarde sur les richesses culturelles, mais aussi beaucoup de vie, puisque je décris aussi ce qui se passe dans cette cité, qui est un petit peu originale et qui est souvent très méconnue, puisque au-delà des anecdotes, de savoir s'il y a une station-service ou savoir s'il y a en effet une pharmacie pour les ecclésiastiques, c'est aussi d'expliquer en quoi cette petite cité constitue une spécificité et qui intéresse toujours encore même les diplomates, puisque pour résoudre des cas qui paraissent insolubles comme le statut Jérusalem, on regarde un peu ce statut du Vatican qui, depuis maintenant 80 ans, perdure et qui montre que ça peut être une entité intéressante comme modèle.
Les enjeux politiques du Vatican, quels sont-ils ?
Il est vrai que l'histoire de l'Église, sans la retracer, a véritablement connu un tournant il y a justement 80 ans, quand les papes, après avoir, disons-le, boudé pendant toute l'histoire de la question romaine, autrement dit pour faire court, entre 1870 et 1929, où ils avaient en quelque sorte mal digéré l'extinction des États pontificaux, donc l'extinction du pouvoir temporel de l'Église, ils ont accepté, ce qui aujourd'hui paraît tout à fait naturel, d'estimer que l'Église catholique n'a qu'un seul et grand pouvoir, mais qui est un pouvoir spirituel. En revanche, pour que ce pouvoir spirituel garde toute son indépendance, quelques diplomates et quelques experts ont trouvé cette bonne idée en 1929 de faire un petit statut indépendant à l'État, à la cité, la petite cité du Vatican, pour permettre de préserver cette indépendance, de ne pas dépendre de puissances politiques. Alors vous allez me dire, l'État du Vatican ne peut pas vivre tout seul. Il est évident qu'il est aidé par l'État italien. Mais il est intéressant de savoir que l'Église catholique s'appuie sur cette petite entité qui correspond aussi à une juridiction qui est internationalement reconnue. Autrement dit, on reconnaît en effet que l'Église catholique a ce petit État. On reconnaît aussi le Saint-Siège dans son appellation juridique internationale, pour prendre le mot précis. Et ça veut dire qu'on reconnaît que l'Église catholique, c'est ça qui est important pour moi, a son mot à dire sur des tas de sujets de questions et n'est pas uniquement là pour remplir des églises et faire un culte. Il me semble qu'il y a une ambition qui est beaucoup plus profonde qu'une simple religion qui serait là pour attirer ses ouailles, remplir les églises et faire un culte. L'Église catholique a une mission en matière d'humanité et cette mission ne peut que se traduire par cette autonomie qui est liée à l'État du Vatican.
Parlez-nous aussi de toutes les ambassades qui existent à Rome, les ambassades qu'on appelle près le Saint-Siège.
L'histoire a montré que les plus grands diplomates ont souvent été des cardinaux qui étaient au service de l'Église catholique, parce que l'Église catholique, au moment, comme j'y faisais allusion il y a quelques instants, où elle avait un pouvoir temporel, donc il y avait une diplomatie vaticane. Elle a gardé cette réputation et ça veut dire qu'elle maintient cette idée d'estimer qu'elle n'est pas là, les diplomates, autrement dit les nonces du Vatican, ne sont pas là que pour avoir des relations avec les églises locales, mais aussi avec les États. Et inversement, les États considèrent qu'ils ont aussi des diplomates au service des liens qu'ils entretiennent avec l'Église catholique. C'est une spécificité aujourd'hui qui est le seul privilège à l'heure actuelle d'une seule religion, l'Église catholique, puisque dans les autres grandes religions, que ce soit l'islam, le bouddhisme, si on considère que c'est une religion, ou la religion juive, il n'y a pas ce système. On peut très bien comprendre que cette Église catholique éprouve le besoin non seulement d'avoir des représentants dans des grandes instances comme l'ONU, mais aussi de considérer que les gouvernements ont intérêt à ce qu'ils sachent qu'est-ce qui est en train de s'étudier, qu'est-ce qui est en train d'être évoqué. Quels sont les dossiers qui sont sur la table des personnes de la Curie? Je prends deux cas de figure qui me paraissent évidents, la Chine et le Proche-Orient, avec les rapports entre Israël et la Palestine.
L'Église a donc toujours son mot à dire au plan politique.
Si on considère le mot politique au sens noble, et moi, ancien journaliste politique, je ne vous cache pas que je considère qu'on peut en effet utiliser le mot politique au sens noble, oui, bien sûr, puisque si l'Église n'est là que dans un rapport à elle-même avec ses fidèles, ça veut dire qu'elle n'entretient pas de rapport avec le monde, ça veut dire qu'elle est abstraite, ça veut dire qu'elle n'est pas incarnée dans les réalités du monde. Si elle est incarnée dans les réalités du monde, il est évident qu'elle a son mot à dire. Et pour avoir son mot à dire, il me semble qu'elle a besoin de personnes qui servent d'intermédiaire.
Un des enjeux pour vous n'est-il pas de dire « l'Esprit Saint peut être au service de l'institution » ?
Il me semble que oui, dans la mesure où je crois que le but d'un observateur comme moi, c'est d'apporter les nuances qui ne sont pas lieux communs pour tout un chacun, sans pour autant, bien entendu, me transformer en procureur du croyant ou du pèlerin ou du touriste de base, naturellement. Et pour moi, il est important, en effet, d'apporter quelques éléments quand il y a des débats aigus, et Dieu sait si en ce moment l'Église traverse des débats très aigus, pour éviter toute caricature. Il me semble que le débat peut s'engager de manière plus sereine si chacun dispose des mêmes éléments d'information.
Vous dites, dans l'introduction de votre livre, que le Vatican peut être un point de départ, ou un point d'arrivée?
Quand je suis venu à Rome, j'avais rencontré le cardinal Lucigé et je lui avais parlé de ce projet de venir travailler à Rome et qui me disait, pardonnez-moi cette question, mais avez-vous un bagage historique? Il ne concevait pas, lui, et je le comprends tout à fait, que l'on puisse travailler sur l'information religieuse à Rome sans avoir ce bagage historique. Et il me semble en effet que ceux qui viennent à Rome avec cet esprit de comprendre également les lumières et les ombres, de comprendre ce qui paraît clair et ce qui paraît aussi encore imparfait. C'est déjà un bon souci de curiosité. Et là, l'observateur rejoint le journaliste. Donc, celui qui veut partir de Rome, ça lui permet de comprendre, disons, dans la chronologie naturelle. Et par ailleurs, celui qui veut se ressourcer, donc qui a déjà un acquis, quel que soit le point où on est, au point de départ ou au point d'une certaine arrivée, c'est un point d'étape en tout cas incontournable pour moi, dans la mesure où personne ne peut marquer un désintérêt, en tout cas pour ce qui se passe ici.